Le 19 février, vous avez animé la conférence inaugurale de la chaire Theodor Verhaeghen 2020 qui s'intitulait « La franc-maçonnerie, une religion parmi d'autres ». Peut-on en effet considérer la franc-maçonnerie comme étant une religion ?
Non, évidemment. C'est un titre volontairement provocateur. Je ne pense pas que la franc-maçonnerie soit une religion. Je pense qu'elle est davantage un mouvement philosophique. Globalement, il y a des séparations qui sont très nettes. La franc-maçonnerie ne reconnaît pas les dogmes. La franc-maçonnerie ne demande pas l'adhésion au rite que l'on traverse. La franc-maçonnerie laisse la pleine liberté de conscience à ses membres. La franc-maçonnerie aussi développe l'esprit critique.
On ne peut pas comparer la franc-maçonnerie à la religion, étant donné qu'il n'y a pas cette idée d'instance suprême.
Mais il y a des religions où la notion d'instance suprême est plus diffuse qu'on ne le pense, parce que nous avons toujours les monothéismes en tête, mais il y a d'autres religions où c'est nettement moins clair, par exemple dans les animismes. Mais ce qui rapproche des religions, ce sont les structures fondamentales. Vous pouvez comprendre une religion comme étant le déploiement de trois structures, le mythe, le symbole, le rite, qui explique l'intersection entre le visible et l'invisible au sein d'une socioculture donnée. À partir de là, c'est vrai que quand on observe la franc-maçonnerie de l'extérieur, elle présente des analogies.
Lesquelles, par exemple ?
La pratique du rite, les symboles, il suffit que vous visitiez un temple maçonnique, vous avez une efflorescence de symboles. Et les mythes, si vous regardez simplement sur Internet franc-maçonnerie et que vous tapez par exemple Hiram, vous allez tomber sur toute la mythologie d'Hiram, le temple de Salomon, et puis des éléments sur la Kabbale, et puis même l'histoire de Jésus revue par la Rose-Croix, et puis les Templiers, et puis. Donc vous allez découvrir toute une série de discours de type mythologique. Donc il y a des analogies structurales, mais il y a aussi des lignes de fracture.
Quels sont les symboles principaux de la franc-maçonnerie ?
Votre question est excellente. Les symboles principaux, c'est finalement les symboles de la construction. Les trois degrés de base, apprenti, compagnon, maître, c'est véritablement la base de la symbolique maçonnique, et plus particulièrement le travail de la pierre. Donc inévitablement, vous avez les symboles qu'on connaît, l'équerre, le compas, le maillet, le ciseau, le niveau, le fil à plomb. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous sommes devant des symboles, avec toutes leurs dimensions parfois un peu mystérieuses, mais aussi devant des symboles qui nous renvoient à des rapports mathématiques. Et vous tenez là l'intersection de la franc-maçonnerie entre la société initiatique et la société qui prône le déploiement de la raison.
Peut-on dire que le concept de la raison est au centre de la franc-maçonnerie ?
Oui, je pense qu'on peut le dire. Non pas que la franc-maçonnerie puisse en faire un titre de gloire, mais elle apparaît, la franc-maçonnerie spéculative apparaît au début du XVIIIe siècle. Elle existe déjà sans doute sous une forme pas très éloignée depuis déjà un demi-siècle à ce moment-là. Cette franc-maçonnerie spéculative est donc une enfant des Lumières. Donc inévitablement, la raison est au cœur de sa création. Donc ce n'est pas parce que c'est la maçonnerie, c'est parce que c'est un mouvement qui est issu des Lumières. À partir de là, c'est vrai que c'est le sujet pensant, c'est la raison, c'est la conscience qui constitue certainement le noyau de base, en ce compris le rapport à la science. Je rappelle par exemple que un grand nombre de membres de la Royal Society étaient aussi membres de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas un hasard. Or, ce n'est pas une société d'intellectuels ou une société que de savants en folie au musée des symboles. Mais l'origine est profondément liée à la raison. Mais ça va au-delà de la raison. Ça favorise aussi le raisonnement par analogie. Et c'est là que la richesse du symbole apparaît.
Vous parliez tout à l'heure donc de grandes fractures avec la religion. Quelles sont-elles ?
Il n'y a pas de texte révélé en franc-maçonnerie. Il n'y a pas de dogme. Si on peut trouver des embryons de doctrine, c'est extrêmement limité. Et il y a surtout le fait qu'en tant que maçon, vous traversez les rites, mais on ne vous demande pas d'y adhérer. Et vous pouvez changer d'opinion.
Vous êtes historien des religions et philosophe. Comment décririez-vous la franc-maçonnerie ?
Du point de vue philosophique, je dirais qu'elle me fait fortement penser à la philosophie à ses origines, c'est-à-dire un lieu de questionnement et un lieu où on peut développer sa pensée critique, un lieu où on peut aussi considérer que dans le dialogue, dans la dialectique, en commun, une forme de lumière, une forme de vérité peut surgir. Donc ça, je pense que ce serait le côté philosophique. Du côté de la religion, c'est peut-être chacun selon ses croyances ou ses convictions, un lieu où on apprend une forme de réflexivité par rapport à sa propre tradition religieuse. Et c'est la raison pour laquelle la maçonnerie n'est pas souvent appréciée par les traditionalistes dans les religions, parce qu'ils considèrent que cette ouverture, a priori, est néfaste.
Parfait, monsieur de Charneux, je vous remercie.
Merci beaucoup à vous.